Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis ravi de vous accueillir nombreux ce soir à Station Ozone Mola pour la présentation d'un livre que j'ai dévoré, Jeanne-Louine. Le livre est intitulé « Shakespeare ou la lumière des ombres » et nous le devons à Eugene Green. Alors, quelques mots, vous le connaissez vraisemblablement. Eugene Green est né aux États-Unis, mais il a quitté la barbarie il y a fort longtemps. Il est venu dans notre pays à la fin des années 60 hein, et depuis, vous avez eu une vie extrêmement remplie de cinéastes, d'hommes de théâtre. Vous avez eu une compagnie, la compagnie de la Sapience, avec laquelle vous avez essayé de restaurer, c'est à dessein que j'emploie le terme, de restaurer une diction baroque du théâtre, et vous êtes écrivain. Il se trouve que nous avons la chance ce soir de vous accueillir. Je tiens d'ailleurs à signaler au public qu'à 20h30, si cela vous intéresse, au cinéma Utopia que vous connaissez, il y a une soirée durant laquelle Eugene Green présentera son cinéma. Donc je vous invite éventuellement à y aller.
Juste pour dire pour les deux, ce qu'on verra si on vient. Oui. Donc ces deux films, en fait, un film d'une demi-heure en portugais qui s'appelle Comment Fernando Pessoa sauva le Portugal, et puis un long métrage de 1h15 qui a été fait dans le cadre d'un atelier de formation pour de jeunes comédiens professionnels, et pour des raisons juridiques, donc il ne peut pas sortir en salle. Donc c'est l'occasion unique ce soir de voir ce film.
Merci, monsieur. Je termine votre présentation, qui sera brève. Eugene Green est à Bordeaux, notamment pour nous présenter donc un Shakespeare. Si l'on va vite, on va dire, tiens, encore une biographie de Shakespeare, une énième biographie de Shakespeare. Qu'est-ce que l'on va apprendre sur ce monument de la littérature et du théâtre? Peut-être pas grand-chose. Bon. Et je tiens, mon avis a peu d'importance, vous êtes là pour écouter Eugene Green. Mon rôle est de le faire parler. J'ai été absolument conquis par votre livre, je le dis sans flatterie, parce que c'est une biographie, je dirais, honnête, humble, modeste, donc extrêmement solide. Et c'est une biographie dans laquelle Eugene Green est totalement présent, mais sans s'exhiber. C'est-à-dire que, véritablement, votre sous-titre, Portrait subjectif, c'est un sous-titre qui correspond tout à fait à ce livre. Vous nous entretenez de Shakespeare, et tout en nous entretenant de Shakespeare, vous nous parlez de votre Shakespeare. Et ça, je trouve absolument passionnant, dans la mesure où vous n'essayez pas d'inventer une vie pour Shakespeare et de Shakespeare, à partir de ce que nous savons, c'est-à-dire très peu de choses, à partir de là, vous lisez son œuvre. Et vous nous dites quels sont les enseignements que vous avez tirés de la lecture de son œuvre. Il y en a trois. En tout cas, j'en ai relevé trois. Et j'aimerais, si vous en êtes d'accord, que vous nous entreteniez de ces enseignements, de ces leçons que vous avez tirées de Shakespeare. La première, c'est celle-ci. Vous nous dites qu'en lisant Shakespeare, grâce à lui, vous avez appris que la fiction était le moyen le plus efficace inventé par l'esprit humain pour exprimer la vérité dans son ambivalence. Alors ça, j'ai envie d'en savoir un peu plus. La vérité dans son ambivalence, et vous l'avez appris par le biais de la fiction.
Parce qu'on vit dans un monde, en fait, où la pensée dominante veut que la vérité soit toujours simple, qu'il y a une vérité. Et d'ailleurs, il y a toujours des conflits entre les différentes vérités, mais chacun est toujours convaincu que sa vérité est la vérité unique. Mais je pense que, justement, tout ce qui existe dans le monde, et en particulier ce qui est humain, et même la compréhension humaine du monde, c'est des choses qui sont ambivalentes, qui sont comme la civilisation baroque à laquelle appartenait Shakespeare. Ça forme en fait un oxymore, c'est-à-dire l'oxymore, si vous ne connaissez pas ce terme, c'est une figure de rhétorique où on réunit deux termes que la raison tient pour contradictoires et exclusifs, pour exprimer une vérité qui va au-delà de la raison. Et donc, nous vivons depuis le XVIIIe siècle dans une dictature de la raison qui est simplement une abstraction qui n'existe que dans sa propre, justement, sa propre construction, sa propre réalité. Mais comme Hamlet dit à Horatio, il y a plus de choses sur la terre et au ciel que ce dont songe votre philosophie. Et donc, le monde et la vérité et l'expérience même, ce sont des choses complexes. Et la fiction a la possibilité d'exprimer cette ambiguïté, cette complexité, le fait qu'une chose et son contraire peuvent coexister et toutes les deux peuvent être vraies selon l'angle sous lequel on les regarde. Et à notre époque, la fiction est mal vue et même considérée comme répréhensible. Souvent dans les critiques de films, quand on veut faire l'éloge d'un film de fiction, on dit c'est à moitié documentaire. Et encore que documentaire, donc dans ce sens, est réduit à quelque chose de très simple et faux, parce que documentaire, dans l'esprit de ceux qui l'utilisent, ça veut dire vrai, réel, et fiction, ça veut dire ce qui n'est pas réel et qui est faux.
Qui est de l'ordre de l'imaginaire.
Voilà, qui est de l'ordre de l'imaginaire. Mais c'est justement cet imaginaire, c'est un des dons que l'homme a reçus. C'est presque son don le plus précieux, puisque ça lui permet de, à travers une représentation du monde, qui est forcément fausse, puisque c'est une représentation, mais ça lui permet d'exprimer cette vérité complexe que dans le monde, dans la réalité matérielle du monde, qui n'arrive pas à démêler, puisqu'il cherche toujours une vérité simple. Donc, effectivement, personnellement, adolescent, j'ai découvert la fiction et la puissance de la fiction chez Shakespeare.
Oui, vous expliquez d'ailleurs dans l'introduction de votre livre que vous avez découvert banalement Shakespeare à l'occasion d'un programme de télévision. Il y avait une retransmission d'une pièce et là, il s'est passé quelque chose. Il y a eu un choc émotif. Vous dites que vous aviez 13 ans, je crois.
Oui.
Donc, un jeune adolescent. C'était une émotion, je pense, sensible. Vraisemblablement, elle s'est doublée d'une émotion esthétique.
Oui, mais à l'époque, je ne m'en rendais pas compte. Donc c'était Roméo et Juliette, et c'est simplement j'ai été ému par l'histoire. Mais en fait, bien sûr, puisque j'avais reçu cette histoire à travers le langage de Shakespeare, qui est un langage poétique. Et c'est aussi à travers une forme théâtrale, donc c'était aussi une expérience esthétique qui a commencé à former ma conscience esthétique.
Si vous me permettez, je voudrais revenir sur la question du baroque et de l'oxymore baroque. Vous avez dit que depuis la fin du XVe, début du XVIe siècle, l'Europe occidentale est dominée par une pensée logico-déductive. Il y a une cause, et dans les mêmes conditions, la même cause produit les mêmes effets. Or, la pensée baroque, c'est une pensée qui est à l'encontre de ce dualisme, dans la mesure où l'oxymore ne tient pas simplement les contraires juxtaposés, mais les contraires sont en même temps possibles.
Oui. Parce que, donc, effectivement, à partir jusqu'au milieu du XVIe siècle, il n'y avait aucune contradiction entre la spiritualité et une foi religieuse même et l'investigation rationnelle du monde, puisqu'on considérait le monde comme la création de Dieu. Et donc Dieu était visible dans son monde. Et le fait d'explorer le monde, c'était simplement se rapprocher de Dieu. Mais ce modèle a pris, à partir de la seconde moitié du XVIe siècle, une telle indépendance avec l'idée que finalement le monde fonctionnait selon des lois et qu'il suffisait de découvrir ces lois pour comprendre le fonctionnement du monde. Et du coup, ce modèle scientifique semblait évacuer la nécessité de Dieu. Mais pendant toute l'époque baroque, c'est-à-dire de la fin du XVIe jusqu'au début du XVIIIe siècle, l'homme vivait cet oxymore, c'est-à-dire qu'à la fois il croyait à cette pensée rationnelle et il croyait à la valeur de cette exploration rationnelle du monde et à la, comment dire, à l'élaboration et l'approfondissement de ce modèle rationnel du monde. Mais en même temps, il croyait toujours que la réalité suprême, c'était Dieu. Mais Dieu n'était plus visible dans son monde, mais c'était le Deus absconditus.
Le Dieu caché. Pascal,
voilà, le Dieu caché. Et le Dieu caché ne se manifestait qu'à des moments exceptionnels où les lois de la nature étaient suspendues, comme une sorte de miracle. Mais pendant toute cette époque, l'homme croyait qu'il pouvait reproduire le monde et produire cette suspension des lois de la nature et donc la manifestation de Dieu à travers l'art et en particulier à travers le théâtre, qui était le plus faux des arts, puisque tout est faux dans le théâtre. Mais le théâtre est devenu le modèle pour tous les autres arts à l'époque baroque.
Et puis, notamment le théâtre au temps de Shakespeare. On a l'habitude de dire en France le théâtre élisabétain.
Oui, mais ça n'a pas de sens.
Voilà, ça n'a pas de sens, mais c'est l'expression, l'expression qu'on emploie. Exactement. Bon, on a l'habitude de dire le théâtre élisabétain. Bon, c'est un théâtre qui repose essentiellement, de mon point de vue, sur l'incarnation, hein, dans la mesure où il y a une scène et puis il y a les comédiens. Et c'est par la prise en charge du texte, un texte d'ailleurs qu'on ne respecte pas toujours, mais c'est par la prise en charge du texte, par le biais de la parole avec le corps, que l'on fait surgir des mondes.
C'est ça.
Sans décor particulier et sans machinerie particulière.
Ça. Et ça, c'est l'essence du théâtre. Donc, une autre chose que j'ai apprise en lisant et en regardant Shakespeare, adolescent et jeune homme, c'était l'essence de la théâtralité que j'ai eu l'effronterie d'essayer de reproposer comme une proposition pour le monde contemporain, puisque je trouve qu'on a perdu au théâtre l'essence de la théâtralité. Mais ça, c'était très, très mal vu.
Oui, alors, je vous fais allusion aux années durant lesquelles vous avez été un homme de théâtre avec une compagnie, la compagnie de la Sapience. Vous avez essuyé des critiques assez rudes, dans la mesure où l'on vous reprochait un parti pris, hein, notamment. J'ai regardé, avant de venir vous voir, je me suis rafraîchi la mémoire, j'ai regardé quelques critiques, on vous reprochait la manière dont vous demandiez aux comédiens de dire le texte. C'était un problème de diction. Et c'est très étonnant parce que votre tentative au théâtre coïncidait avec un retour des musiciens vis-à-vis des instruments anciens, de la manière de jouer à la même époque la musique. Et cet effort, ce retour vers le baroque musical a été salué, célébré, alors que vous avez été éreinté. Vous avez du mal à le vivre.
Oui, c'était très, très difficile. Et que j'ai réussi à faire des choses. À la fois, je donnais des spectacles tout seul, ça ne coûtait pas très cher, mais j'ai réussi aussi à monter des pièces du XVIIe siècle avec des acteurs, et ça, c'était très difficile, puisqu'on n'avait aucune subvention, en fait. Non seulement on n'avait pas de subvention, mais on était considéré comme... Enfin, ces démarches étaient considérées comme moralement répréhensibles, parce que à l'époque... le théâtre était plus ou moins la religion d'État de la Saintissime République classique, laïque et parisienne.
Alors, le public sourit à votre bon mot. Je tiens à dire, dans la salle, certains et certaines savent que je suis universitaire. Je vous ai lu sur la pointe des pieds parce que vous êtes rude avec les collègues. Hein. Avec les universitaires, vous les éreintez. Alors, je ne sais pas si vous prenez votre revanche, mais vous les secouez. Donc, je m'adresse à vous en tant que lecteur et non pas en tant qu'universitaire.
Non, c'est-à-dire que, en plus des structures officielles du théâtre, J'ai été aussi très, très agressé d'une manière très, très violente par certains mandarins du monde universitaire. Alors, il y a eu un moment, donc il y a eu un universitaire, Georges Forestier, qui était spécialiste du théâtre du 17e siècle, qui a commencé à me soutenir. Et à ce moment-là, il y a eu des retournements de veste ailleurs, surtout chez les plus jeunes ou même des gens de sa génération. Maintenant, il y a une sorte de nouveau un retournement parce qu'on dit que donc, ce que je faisais n'était pas scientifiquement fondé. Mais je ne suis pas scientifique et je ne suis pas universitaire. J'ai du respect pour les vrais universitaires, les vrais chercheurs et les vrais pédagogues. C'est même quelque chose de très important. Mais disons que il y a donc des universitaires qui disent maintenant, moi j'ai trouvé un texte qui dit qu'en 1667, on a cessé de prononcer le T à la fin des vers, et donc dire Phèdre en prononçant le T à la fin des vers, c'est horrible, c'est historiquement désinformé, puisqu'ils refusent le mot baroque, qui en France a toutes sortes de connotations idéologiques, et qu'ils aiment toujours le mot classique, qui a aussi toutes sortes de connotations idéologiques. Donc, pour éviter, parce que moi, j'appelais ça du théâtre baroque, comme les musiciens disaient faire de la musique baroque. Donc, ils appellent ça maintenant du théâtre historiquement informé. Moi, je trouve que c'est hystériquement informé, mais... en fait, moi, ce que je faisais, à l'époque, rien n'était connu, même d'un point de vue scientifique. J'ai demandé, par exemple, à des historiens, des linguistes, spécialistes de la phonétique historique, de me donner des indications. Et ils ont dit, non, on peut dire que ce phonème, sous sa forme écrite, cette lettre est passée en latin de cette lettre en français, mais moi, je ne peux pas reproduire le son. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était effectivement d'en faire un usage artistique et donc créer un modèle qui était historique, qui était fondé, qui n'était pas hystériquement informé, mais qui était fondé sur des bases, sur des recherches véritables, mais qui était surtout un moyen de se rapprocher de ce que c'était la théâtralité et la façon de jouer. Il ne s'agissait pas seulement de la prononciation, c'était toute une conception du jeu. Il y a aussi la gestuelle et même surtout de la gestion de l'énergie chez l'acteur, qui était complètement différente de ce qu'on fait dans le théâtre psychologique aujourd'hui. Donc, moi, j'ai quand même fait des recherches pendant 15 ans. Même j'étais dans un cadre universitaire très respectable. J'étais inscrit en thèse à l'école des hautes études en sciences sociales avec Louis Marin. Mais ayant fait toutes les recherches, j'ai décidé de ne pas rédiger ma thèse et la soutenir parce que je n'avais pas envie d'enseigner à l'université, mais de faire des spectacles. Et du coup, ce que je propose, c'est effectivement un modèle qui fonctionne aussi bien pour les pièces du début du XVIIe siècle que pour Racine. Et ça fonctionne donc pour les premières pièces de Racine, comme pour Phèdre et les pièces de Saint-Cyr. Et donc, le public peut, une fois que le public entre dans cette forme de représentation, l'exotisme disparaissait. Ça, c'était vrai que j'ai constaté. Et que ça devenait simplement une expérience théâtrale réelle. Donc voilà, c'est juste pour...
Et si vous me permettez, nous allons revenir à Shakespeare, à partir de ce que vous venez d'énoncer, à la fin de votre livre, il y a un appendice, et notamment l'une des séquences de cet appendice est consacrée aux traductions. Ça m'a vraiment passionné. J'ai envie de vous dire que d'abord, vous êtes convaincant, vraiment convaincant, et je pense que quand on vous lit et quand on a lu un peu Shakespeare, quand on l'a vu jouer, on ne peut qu'arriver à la conclusion que Shakespeare est intraduisible. Il faut le lire d'une manière... Il faut le publier en bilingue.
Oui.
Parce qu'autrement, on perd énormément de choses. Je vous ai bien compris.
Oui. Et même, il faut le publier en bilingue, avec des traductions très lourdes, en fait, des traductions littérales, puisqu'on oblige tout le monde aujourd'hui à apprendre ce patois, le patois saxo-normand. J'explique dans le livre pourquoi je l'appelle comme ça. C'est historiquement fondé. Mm-hmm. Mais disons que donc, tout le monde a des bases en anglais. Et du coup, avec une traduction très littérale, ça vous permettrait, et des notes, puisque même, quand, moi je peux le lire donc, dans des éditions anglaises dans le texte, mais dans les bonnes éditions anglaises, il y a sur ça, chaque page ça de texte et ça de notes. Et que quand je lis, sauf pour lire un passage et en comprenant toutes les nuances et toutes les références possibles, je lis comme ça sans lire toutes les notes. Mais disons qu'avec une édition bilingue et une traduction assez littérale, ça vous permettrait vraiment d'entrer dans le texte. Parce que toute poésie, je pense, est intraduisible. Et dans le cas de Shakespeare, il y a aussi la complexité de l'écriture qui est toujours polysémique. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs sens en même temps. Et puis, c'est plein de références historiques, littéraires, etc. Et donc, on ne peut jamais tout comprendre, en fait. En tout cas, pas en même temps. Mais quand les pièces sont jouées, et certaines des pièces de Shakespeare, je les ai découvertes en les voyant jouer sans les avoir jamais lues, tout le monde, quand même, dans le monde anglo-saxon, les spectateurs entrent dans la pièce sans comprendre tout et sans comprendre toutes les nuances, mais la pièce porte, avec son énergie, porte le spectateur. Et donc, même à la lecture, si vous avez une édition bilingue, vous pouvez entrer de cette façon dans la pièce. Mais essayez de traduire. Donc, j'ai pris dans ce chapitre sur la traduction, j'ai pris un petit passage de Macbeth, et je donne presque toutes les traductions tenues pour les plus importantes à partir de Guizot au début du 19e siècle jusqu'à des traductions très récentes de Markovitch, de Yves Bonnefoy et de dans la Pléiade.
De Desprats.
Desprats, voilà, c'est ça. Et je montre que chacun apporte quelque chose, mais que chacun a de tels défauts et de tels manquements par rapport à l'original qu'on n'a jamais, quelle que soit la traduction qu'on lise, on ne peut jamais vraiment se dire qu'on s'est approché même de l'original.
Si vous me permettez, vous dites quelque chose d'une manière non polémique, mais qui est tout à fait réelle, c'est que la tradition française de la traduction vise l'univocité. Alors, d'une manière générale, c'est dommage parce que ça appauvrit évidemment la signification. Mais dans le cas de Shakespeare, c'est une catastrophe parce qu'on choisit un sens là où le vers peut s'ouvrir quasiment à l'infini.
C'est ça. Et en plus, l'autre gros défaut de la tradition française, c'est qu'on pense que traduire une œuvre littéraire, c'est traduire le sens, comme si c'était un mode d'emploi pour un appareil électroménager. Et du coup, on passe complètement à côté de l'élément de la langue comme matière. Et surtout pour un texte théâtral, donc il doit être incarné, mais toute poésie, de toute façon, devrait être incarnée. Et du coup, et chez Shakespeare, il y a une grande partie des pièces sont écrites en vers, et on ne cherche jamais à reproduire des vers. Et puis, il y a des passages aussi en prose, donc ça fait aussi une différence qu'on ne cherche jamais non plus à reproduire. Et donc, effectivement, il faut, non seulement pour Shakespeare, mais en fait pour tous les grands auteurs. Moi, je ne cherche pas à, en tout cas pour tout ce qui est poésie, que ce soit des pièces de théâtre ou des épopées ou de la poésie lyrique, je ne lis que des auteurs dont je peux lire la langue. Je ne cherche pas à lire des traductions. Pour les romans, maintenant, comme je sais que je ne pourrais pas apprendre toutes les langues, certains romans, je lis en traduction. Mais la poésie, il faut le lire dans l'original.
Alors la poésie de Shakespeare, je pense que vous ne me reprendrez pas si je dis que certes Shakespeare est un homme de théâtre, mais pas seulement. C'est un poète, mais pas seulement. Mais en même temps, ce n'est pas faux de dire, s'il faut le présenter à un jeune public, par exemple, de dire c'est un immense poète.
Oui, bien sûr.
C'est un poète.
Voilà,
y compris dans sa pratique théâtrale, c'est un
bien
poète.
Sûr, bien sûr, il est considéré dans les pays de langue anglaise comme le plus grand poète de langue anglaise. Et donc, il a écrit aussi, il a écrit des poèmes narratifs qui sont beaux, mais qui ne sont, s'il n'avait écrit que ça, ce serait un poète dont on se souviendrait, mais avec beaucoup d'autres. Mais il a écrit aussi des sonnets, qui sont aussi parmi les plus beaux poèmes lyriques de la langue anglaise. Donc, mais même s'il n'avait pas écrit les sonnets ni les poèmes narratifs, il serait considéré quand même comme le plus grand poète, simplement pour son œuvre théâtrale. Donc, c'est dire que, voilà, ça veut dire que c'était un immense auteur, un immense poète, et qui a pratiqué plusieurs genres.
Alors, justement, cet écrivain phénoménal. Il a peut-être eu la chance d'avoir un immense talent, mais de vivre à une époque que je qualifierais une époque d'anomie, dans la mesure où son parcours d'homme, de sujet humain, correspond à la fin d'un monde et à l'émergence d'un nouveau, que ce soit sur le plan économique, social ou politique. C'est la fin des Tudors, c'est le début des Stuart, et en même temps, c'est le changement, je dirais, pour parler comme mes collègues d'aujourd'hui, de paradigme. C'est-à-dire que l'on passe en fait d'une conception du monde médiéval, avec ce que vous avez évoqué tout à l'heure, la clé de voûte, c'est la croyance en Dieu et sa présence. Hein, présence qui se manifeste par exemple dans la personne du souverain qui est là, qui est la présence manifeste de la divinité, et puis le nouveau monde, hein, le nouveau monde qui s'installe. Et j'ai été très sensible à votre lecture de Shakespeare parce que vous montrez comment dans toute une série de pièces il essaie de résoudre ce passage d'un monde à l'autre. Hein, il est entre deux rives et il vous montrait très bien comment, dans telle ou telle pièce, il y a des éléments qui s'apparentent à l'ancien monde et d'autres qui expriment le nouveau monde en train d'émerger.
Oui, et que, disons que, en plus, la carrière de Shakespeare a commencé, enfin, la carrière en tant qu'auteur, ça a commencé sans doute à la fin des années 1580, mais comme le premier document qui situe qui situe historiquement sa carrière, ça date de 1592. On dit habituellement que sa carrière commence autour de 1590. Et puis la dernière pièce qu'il a écrite seul, La Tempête, c'est de 1610. Du coup, sa carrière s'étend sur deux décennies.
Oui. Et 20 ans à peu près.
20 ans, voilà. Et ces deux décennies, en fait, appartiennent à deux siècles différents. Et ce n'est pas simplement une question de date, de changement de siècle, mais il y a vraiment une bascule, à la fois politique, puisqu'effectivement, en 1603, la reine Élisabeth Ière, la dernière des Tudors, meurt. Et Jacques Ier, le premier des Stuarts, est proclamé roi. Mais c'est aussi, on bascule en fait du monde plus ou moins de la Renaissance, de la fin de la Renaissance, au début du monde baroque. Et ça correspond aussi donc à ces contradictions qu'on trouve dans la vie et dans l'œuvre de Shakespeare. Et effectivement, donc il y a cette vision médiévale qui est une vision hiérarchique, avec une présence donc très forte du sacré qui est apparente dans le monde, puisque Dieu est visible dans son monde créé et Dieu est représenté par le souverain. qui a, dans, en Angleterre comme en France, il y avait une doctrine non seulement symbolique, mais vraiment officielle, des deux corps du roi. Le roi, chaque roi avait un corps humain qui lui appartenait, mais au moment de son avènement, il assumait aussi le corps immatériel du roi.
Le corps glorieux.
Le corps glorieux du roi, qui était une émanation du corps glorieux du Christ. Et donc, il y avait cette vision-là. Et puis, il y avait le capitalisme naissant. Et donc, Shakespeare, dans son théâtre, on voit qu'il était très attaché à l'ancien monde, puisqu'il y a un sentiment du sacré qui parcourt tout son théâtre de façon différente selon la décennie, mais c'est toujours présent. Mais c'était aussi un grand homme d'affaires. C'était un homme qui était obsédé par l'ascension sociale. Et effectivement, dans sa famille, il y a eu une ascension sociale très importante à travers trois générations, puisque son grand-père paternel était un métayer, était un paysan sans terre. Son père est devenu commerçant et bourgeois respecté et respectable de la ville de Stratford-upon-Avon. Et il a épousé une fille de la famille à qui appartenaient les terres que travaillait son père à lui, donc le grand-père de Shakespeare. Et puis Shakespeare est devenu, à travers le théâtre, un des hommes les plus riches d'Angleterre et le citoyen le plus riche de sa ville natale, de Stratford, dont il a fait beaucoup d'affaires immobilières. Il a acheté des parties très importantes, soit des maisons importantes dans la ville ou des terres autour de la ville. Et donc, il est devenu en plus, il a obtenu des armoiries pour sa famille. Et donc, il est devenu officiellement un gentilhomme. Cette ascension sociale n'aurait pas été possible au début du XVIe siècle, où il y avait la pensée médiévale qu'on naissait par la volonté de Dieu, on naissait à un certain niveau de la société et il fallait y rester.
Oui, dans un certain ordre.
Dans un certain ordre, voilà. Et on trouve, il y a aussi la question religieuse qui est très importante et qui c'est quelque chose qu'on commence à connaître beaucoup mieux maintenant parce qu'il y a eu pendant longtemps en Grande-Bretagne, justement, c'est une sorte de tabou, dans la mesure où, pour des raisons purement politiques, Henri VIII a établi une église anglicane qui était une église nationale, dont le chef, la tête, était le roi, donc un personnage séculier. Et c'était la religion officielle d'Angleterre, enfin, ce l'est toujours d'ailleurs, contrairement à notre République, l'Angleterre n'est pas un pays laïque, puisqu'il y a une église, toutes les religions sont acceptées et qui peuvent se pratiquer librement, mais il y a une église dite établie, qui est l'église anglicane. Et donc, selon la religion. Après Henri VIII, selon le souverain, la religion était soit cette religion officielle, soit, en tout cas sous Marie Tudor, mais qui n'a régné que pendant 5 ans, est redevenue la religion catholique. Mais en fait, à côté de cette religion officielle, il y avait deux cas de ce qu'on appelait de récusants, c'est-à-dire des groupes humains qui refusaient la religion officielle. Donc, d'un côté, il y avait les puritains, qui étaient des protestants plus extrêmes que l'Église. L'Église anglicane était théologiquement luthérienne, tandis que les puritains étaient calvinistes et des calvinistes extrêmes. Et de l'autre côté, donc, il y avait une partie de la population très importante, que ce qu'on sait aujourd'hui, peut-être même majoritaire, qui est restée attachée à la religion catholique et qui a vécu ça de trois façons différentes, c'est-à-dire dans certains cas, pour des raisons de commodité ou autres, les gens ont accepté complètement la nouvelle religion, tout en gardant une sympathie simplement pour le catholicisme et pour certains de ces rites dont on a qu'on a incorporé même dans l'Église anglicane. Et il y en a qui sont opposés ouvertement, c'est-à-dire qui refusaient l'anglicanisme ouvertement et qui ont été persécutés selon la période. Et ça pouvait s'agir simplement d'amendes et de sermons. Et à d'autres moments, la persécution est devenue très violente et mena même jusqu'à des exécutions. Et puis une troisième catégorie qui vivait une sorte d'entre-deux, c'est-à-dire qui se conformait extérieurement à l'Église anglicane, mais qui, avec des prêtres clandestins catholiques, continuait à pratiquer le catholicisme. Et d'après tout ce qu'on peut savoir, la famille de Shakespeare était de cette catégorie-là. Son père, en tout cas, était, et sa mère aussi, étaient des catholiques pratiquants, mais clandestinement, et donc il est très probable que les enfants ont été élevés de cette façon. Et on trouve des traces au cours de la vie de Shakespeare qui montrent que tout en vivant extérieurement en anglican, il restait attaché au catholicisme et même dans certains cas participait à des rites interdits catholiques. C'est quelque chose dont on trouve des traces même dans les pièces et que j'ai essayé d'analyser, en particulier les pièces de la seconde période, de la période baroque. Mais dans sa vie, ces deux traditions religieuses aussi forment une contradiction, puisque selon la vision catholique du monde à laquelle il restait attaché par les sentiments, et qui donne un sentiment du sacré qu'on trouve dans ces pièces. Pourtant, ces traditions étaient plutôt pour l'immobilisme social, tandis que l'esprit des puritains, en particulier, qui était lié au développement du capitalisme en Grande-Bretagne, lui a permis, en fait, de devenir un grand capitaliste dans la pratique du théâtre. Et donc, il a profité des deux traditions dans sa vie d'artiste et d'homme d'affaires.
Alors, justement, votre livre est passionnant sur ce point, c'est-à-dire que vous rappelez, vous apprenez à un certain nombre de lecteurs que cette période charnière de l'histoire d'Angleterre a été troublée, et notamment pour ces questions religieuses, qu'il n'est pas impossible que la famille de Shakespeare ait vécu, vous l'employez à plusieurs reprises dans votre livre, comme des maranes. Hein, mmh. Vous établissez un parallèle avec les juifs séfarades d'Espagne, ceux qui sont restés en Espagne, en donnant l'impression d'abjurer leur foi alors qu'ils continuaient de la pratiquer chez eux.
Au Portugal aussi.
Voilà. Donc vous situez bien et avec force Shakespeare et sa famille. Et surtout, ce qui me paraît très intéressant, c'est que vous n'êtes pas dans l'imagination. Vous ne brodez pas. Vous dites « voilà ce que l'on sait, voilà ce que l'on peut supposer ». Ce ne sont que des hypothèses. Et à partir de cela, vous lisez les pièces, notamment. Et ce qui m'a vraiment passionné, et je saisis votre propos au vol, c'est que l'on peut supposer que Shakespeare, son cœur penché vers le passé et vers le sacré, et dans l'écriture de ces pièces, eh bien, cela se sent. Et cela se sent, on a ce poète prodigieux qui bricole, qui fait un bricolage dans la mesure où le rituel tragique, il sent bien que ça ne marche pas, ça ne peut plus marcher. Donc, il cherche. Et de pièce en pièce, vous montrez bien comment de pièce en pièce, il cherche. Il cherche quoi ? À faire concilier ses valeurs de l'ancien monde avec les réalités nouvelles. Et alors, notamment, j'ai été subjugué par votre analyse du roi Lear. J'aimerais que vous nous en parliez un petit peu.
C'est la pièce que j'analyse le plus longuement parce que, bon, pour moi, il y a beaucoup de chefs-d'œuvre chez Shakespeare, mais pour moi, c'est le plus grand chef-d'œuvre de Shakespeare. Et ce que j'essaie de montrer, c'est que dans les pièces des années 1590, Shakespeare a réussi à suivre ce que j'appelle le rituel dramatique, qui est en fait la base du théâtre dans toutes les civilisations, où il y a une certaine harmonie entre les valeurs de la civilisation et la société. Il y a une certaine harmonie dans la société et un certain sentiment d'appartenir à un même monde.
À la même communauté.
À la même communauté, voilà, c'est le mot que je cherchais. Et donc, on trouve ça pour la première fois en Occident, à Athènes, au 5e siècle avant Jésus-Christ, chez les grands tragiques, et aussi chez Aristophane, même, puisqu'il y a un versant comique du rituel dramatique. On le retrouve plus tard, à l'époque baroque, mais pendant une période très limitée, en France, au début du règne de Louis XIV aussi, puisque jusqu'à un certain point, en tout cas, les grands, Corneille et Racine surtout, et aussi Molière, ont suivi cette structure que j'appelle le rituel dramatique. Et donc, dans les grandes pièces de Shakespeare de la première période, on peut trouver cette structure. En gros, cette structure, c'est fondée sur le rituel du bouc émissaire. Mmh. C'est-à-dire que dans toute civilisation, parce que c'est même au cœur du sentiment du sacré, toutes les civilisations ont des rituels où à certaines époques, c'était une victime humaine. Après, c'était une victime animale. Toutes les fautes de la société, on mettait sur cette victime, qui devenait donc souillée par le fait qu'elle prenait sur elle toutes ses fautes. Mais en même temps, selon la logique du sacré, le bouc émissaire qui devient souillé de cette façon devient aussi saint. Et donc, on sacrifiait cette victime et la communauté était purifiée et le bouc émissaire devenait en même temps une sorte d'intercesseur entre la communauté et le sacré. Et on trouve ça dans le rituel dramatique, c'est-à-dire qu'il y a un personnage qui a plutôt des qualités, mais qui a un grave défaut qui fait que il doit être sacrifié.
Parce qu'il y a une infraction.
Voilà, il y a une infraction qui déséquilibre l'ordre social et cosmique. Dans la tragédie, c'est toujours l'ordre cosmique, mais qui est lié à l'ordre social, puisque dans une telle communauté, on croit que l'ordre social est un reflet de l'ordre cosmique, de l'ordre divin. Et dans une comédie, c'est la même chose, sauf que c'est plus centré sur l'ordre social.
L'infraction est moins grave.
Voilà, l'infraction est moins grave. Et donc, il y a un châtiment. Donc, dans la tragédie, c'est souvent la mort. Dans la tragédie, c'est juste une correction. Et l'ordre est donc rétabli. L'infraction est évacuée, le résultat de l'infraction. Et donc l'ordre est rétabli et la communauté vit de nouveau en harmonie avec le sacré. Et on peut voir cette structure dans les pièces de Shakespeare, dans certaines pièces que je cite, des années 1590. Mais à partir de 1600, ça ne devient plus possible puisque les tensions dans la société sont trop grandes. On est entré dans le monde baroque où tout est oxymore. Et du coup, il fallait trouver une forme qui permettait d'exprimer cette tension. Et donc la tragédie, d'une manière générale, n'était plus possible. Et les pièces de Shakespeare de cette période qu'on appelle des tragédies sont peut-être de belles pièces, mais ce ne sont plus des tragédies selon la structure rituelle. Par exemple, Hamlet, qui fait rouler les yeux à tout le monde, que moi, j'ai toujours aimé moins que d'autres pièces. Pour moi, Hamlet n'est pas une tragédie, puisque une tragédie, c'est toujours un drama. Drama, ça veut dire action. Et le héros de Hamlet, justement, c'est un homme qui ne peut pas agir. Donc, il n'y a pas d'action dans Hamlet. Il y a juste une série d'épisodes et de tensions. Et en fait, à la fin, il y a une hécatombe, mais finalement, l'ordre n'est rétabli que par l'intervention d'une puissance extérieure, c'est-à-dire que le Danemark devient vassal de la Norvège. Et donc, ce n'est pas vraiment l'ordre qui est rétabli. Mais et dans une pièce, Shakespeare a trouvé encore un moyen d'écrire une tragédie qui correspondait à la nouvelle période, et c'est le roi Lear, qui est pour moi une tragédie chrétienne, parce que c'est une pièce qui montre donc des fautes, une faute très grave au début. C'est un roi qui n'assume pas sa charge.
Oui, il renonce
à sa charge.
Ce qui veut dire qu'il renonce au fait de représenter le divin et le sacré.
C'est ça, parce qu'il a reçu cette charge de Dieu, et au lieu de la garder jusqu'au bout, il y renonce pour des plaisirs terrestres. Donc il a commis une très grave faute. Mais pour Shakespeare, un roi, c'est toujours un roi qui garde cette charge sacrée. Donc Lear doit souffrir, doit être martyrisé pour expier la faute. Et puis il y a d'autres personnages aussi qui doivent l'expier avec lui, donc notamment Gloucester, qui a commis à un certain niveau la même faute, puisque il a rejeté son fils qui est bon pour son fils qui est mauvais. Mais et même Cordelia, qui est complètement innocente, mais qui est entraînée dans la faute de Lear. Mais tous ces personnages souffrent. Mais à la fin, il y a surtout les deux vieillards dont la pièce détaille les souffrances. Mais il y a aussi un jeune qui souffre, un jeune innocent, qui est Edgar. Et Edgar, je montre qu'il y a beaucoup d'éléments dans le personnage d'Edgar qui montre que pour Shakespeare, c'est une figure christique. C'est le Christ qui est revenu en quelque sorte pour aider les hommes à se purifier.
Pour le salut.
Pour le salut, et donc pour conduire ces pécheurs dans une imitation du Christ qui va les purifier et purifier aussi le monde. Puisque c'est une pièce où la nature, le monde naturel est toujours présente. C'est une pièce qui se passe en principe en dehors du monde chrétien, puisque ça se passe dans la Grande-Bretagne pré-chrétienne. Mais en fait, il y a tout le temps des références au sacré et la divinité. Et puis, par exemple, parmi les différents signes que j'analyse par rapport à Edgar, à un certain moment, il se présente comme un personnage qu'il appelle pauvre Tom. Mais à un certain moment, il se donne un autre nom qui est Turley God. Et Turley God, si on inverse deux lettres, ça devient Truly God, véritablement Dieu. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça. Bon, je ne vais pas faire toute l'analyse, mais c'est une pièce donc, qui montre en fait un parcours chrétien de la faute à la contrition. Et donc le salut par la souffrance et la contrition et l'amour qui arrive donc finalement chez tous les personnages bons, même s'ils ont commis des fautes, il arrive à la fin un grand mouvement d'amour. Et donc voilà, Lear, c'est une vraie tragédie, mais qui fonctionne autrement que les tragédies des années 1590. Et ensuite, donc, la tragédie n'était plus possible. Donc, Shakespeare fait des expériences en cherchant une autre forme qui peut remplacer la tragédie dans ce monde baroque. Et il trouve une forme que moi j'appelle, c'est pas le nom traditionnel, mais moi je l'appelle la tragicomédie, qui existe aussi dans d'autres pays. Et donc, j'analyse trois. Il y a d'autres pièces qui rentrent dans cette catégorie, mais qui sont moins parfaites. Mais j'analyse trois pièces qui correspondent parfaitement à ce modèle et qui représentent une forme de théâtre spirituel, du monde baroque et qui fonctionnait donc dans cette seconde période de la carrière de Shakespeare. Les trois pièces sont mesure pour mesure. C'est une pièce qui n'est pas très aimée, qui n'est pas très souvent jouée et qui a toujours été une de mes pièces préférées de Shakespeare. Peut-être que déjà j'avais une inclination pour le baroque et que c'est une pièce parfaitement baroque. Ensuite, le Conte d'hiver, qui paraît était une pièce négligée, qui est aujourd'hui maintenant très, très à la mode. Et puis la Tempête, qui a toujours été très, très jouée, mais parfois pour de mauvaises raisons, parce qu'on pensait trouver des éléments autobiographiques, une confession de Shakespeare, tandis que, bon, peut-être que ces éléments sont là, mais c'est surtout une grande pièce qui représente la civilisation baroque et le théâtre de Shakespeare dans toute sa plénitude.
Si vous me permettez, une dernière chose avant que nous nous tournions vers la salle et que nous donnions la parole au public. Ce qui m'a beaucoup intéressé, notamment dans votre analyse du roi Lear, c'est que, vous l'avez dit, hein, vous avez repris les termes de la théologie catholique, la contrition. En vous écoutant, je pensais à la rédemption.
Oui, bien sûr.
Souffrir pour les autres afin de contribuer à leur salut. Ce qui m'intéresse énormément, c'est que j'ai envie de vous dire, et je pense que je ne vais pas vous manquer de respect, ce que vous énoncez, c'est une hypothèse. C'est une hypothèse que je trouve très solide. Je la trouve très solide, pourquoi ? Parce que, d'une part, vous n'inventez pas des détails biographiques, et surtout, vous ne rapportez pas ce que l'on sait de la vie de Shakespeare à la lettre de son théâtre ou de sa poésie. C'est-à-dire que vous lisez la poésie de Shakespeare ou vous lisez le théâtre de Shakespeare en pensant que vous allez apprendre peut-être des choses sur Shakespeare et sur sa vie, mais pas des choses détaillées. C'est-à-dire que vous ne lisez pas le théâtre de Shakespeare ou la poésie de Shakespeare avec la loupe d'un détective. Vous ne menez pas une enquête. Vous ne menez pas une enquête policière. Mais vous essayez de comprendre quel était l'homme et de le situer dans un contexte qui l'obligeait à s'exprimer, mais aussi à vivre, vous l'avez dit tout à l'heure, dans ce que j'appellerais une double détente. Donc, en fait, le travail sur la langue, le travail poétique, le travail sur le signifiant, ne l'empêchait peut-être pas de défendre ses propres convictions, lesquelles, vraisemblablement, en tout cas c'est une hypothèse qu'on peut retenir, lesquelles regardaient du côté du sacré et d'un sacré catholique, et non pas du nouveau monde capitaliste en train d'émerger. Je vous ai bien compris ?
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que aujourd'hui, pour Shakespeare, pas seulement pour Shakespeare, mais d'une manière générale, quand on lit un auteur, c'est toujours à la loupe de la psychanalyse, on cherche toujours on veut absolument connaître la vie intime des auteurs. Shakespeare, heureusement, je trouve pour lui et pour nous, on ne saura jamais beaucoup de choses sur sa vie d'homme, sa vie intime, puisque les éléments ne sont pas là. Si jamais ils ont été là, ils ont disparu. Mais en grande partie, je pense qu'ils n'ont jamais existé sous forme de documents. Et du coup, donc j'ai simplement cherché à comprendre ces œuvres en tant qu'œuvre littéraire et théâtrale, en faisant référence surtout au contexte de l'époque que je connais assez bien, en fait, puisque ça, c'est disons, toute cette période, pas d'une manière de spécialiste, puisque je ne suis pas spécialiste universitaire, mais à cette époque, 16e et 17e siècle, j'ai passé une grande partie de ma vie dans ce que ces siècles ont laissé. Et du coup, je les connais d'une certaine façon. Et donc, effectivement, tout ce que je propose, ce sont des hypothèses qui explique les œuvres, mais du coup, en comprenant les œuvres, si ces hypothèses sont justes, ça veut dire qu'on comprend aussi quelque chose peut-être à propos de l'homme, tout en voyant que c'est toujours ambigu et complexe. Et donc, on ne pourrait jamais aller au-delà de ça. C'est-à-dire qu'on peut les faire dire aussi le contraire de ce que je dis, en se concentrant sur d'autres éléments.
C'est un homme du clair-obscur.
Oui, voilà, de clair-obscur. D'ailleurs, je veux juste dire, c'est anecdotique peut-être, mais que le vrai titre du livre, c'est « La lumière des ombres » avec sous-titre « Portrait subjectif de William Shakespeare ». Mais
l'éditeur a voulu...
pas l'éditeur lui-même, mais les responsables commerciaux de la maison d'édition voulaient absolument... Ils voulaient simplement que ça s'appelle Shakespeare. Et ça, je n'acceptais pas. Donc, c'est l'éditeur qui a trouvé ce compromis. Mais c'est vraiment un essai personnel et subjectif. Et pour laisser mon modèle, reste toujours votre premier maire, Michel de Montaigne, et pas Montaigne, quand on lit les essais de Montaigne, donc c'est sur des sujets avec beaucoup de références littéraires, mais finalement, ce que ça donne surtout, c'est un portrait de l'auteur. Et donc voilà, pour moi, c'est un essai dans la ligne de Montaigne.
Nous avons compris que vous ne cherchez pas à dire Shakespeare, c'est Hamlet, parce qu'il peut être à la fois Hamlet et le spectre.
Oui, voilà, très bien.
Je me permets de remercier vivement et chaleureusement Eugène Green pour le temps qu'il nous a accordé.
Merci à vous.